Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et passionnée de sport. Au cours des dernières années, la montée en popularité des médias sociaux a accéléré le partage d'informations contradictoires en nutrition. Mon objectif avec ce podcast, c'est tout simplement de te présenter les nombreuses nuances au travers des points de vue divergents de plusieurs experts. Ensuite, ce sera à toi de te faire une tête en fonction de tes valeurs, ton vécu et bien sûr, des données scientifiques actuelles. Bonne écoute! Vous écoutez Zone Grise, épisode 3. Salut, je suis très heureuse de vous présenter mon podcast aujourd'hui. J'avais vraiment hâte à cet épisode dans lequel je m'entretiens avec Mathieu Bouchard, qui est naturopathe. Naturopathe assez reconnu, je vous avouerai, là, au Québec. Il est formateur et fondateur de l'Institut AAT, qui est un institut de formation finalement en naturopathie. Donc quand même une belle notoriété dans son domaine, là, Mathieu. Super heureuse de l'avoir avec moi. La raison pour laquelle je souhaitais à tout prix recevoir un naturopathe là, sur mon podcast, je vous avouerai même que c'est peut-être ce qui a initié en fait le désir de lancer le podcast, c'est qu'on a finalement souvent des discours qui sont complètement polarisé. On a des recommandations qui ne se ressemblent pas du tout. Puis j'ai un vif désir de comprendre comment est-ce qu'on peut en venir, comment est-ce qu'on peut tirer des conclusions qui sont aussi à l'opposé. Donc, par exemple, souvent les naturopathes prônent le retrait des produits laitiers, du gluten, ils sont contre l'alimentation végane. Il y a quand même plusieurs choses comme ça, les suppléments aussi, sur lesquels on a vraiment un discours qui n'est pas cohérent. Donc, sans jugement, puis vraiment avec ouverture d'esprit, j'avais juste envie de comprendre. Je vous avoue que j'ai aussi profité du confinement pour m'ouvrir à leurs pratiques. Je les ai suivis, écoutés, lus, vraiment pour essayer de me faire une tête là, sur ce qui se disait au niveau de la naturopathie. Mathieu Bouchard, je l'aime particulièrement bien, là, honnêtement. C'est un gars qui regarde beaucoup la littérature. C'est un gars qui parle fort, qui dit ce qu'il pense. Il met pas nécessairement toujours des gants blancs, puis c'est tout à son honneur, selon moi. Donc, maintenant que je viens de lui lancer des fleurs, écoute, voici mon pot. Non, mais en toute honnêteté, là, le but du podcast, c'est vraiment un peu de faire la lumière sur plein de concepts, puis c'est vraiment pas, mon objectif n'est pas d'avoir raison, puis effectivement, il y a des points qui amènent dans le podcast qui sont super bons, mais il y a quand même certains points sur lesquels je tenais à revenir là, d'entrée de jeu, puis je trouve ça un peu poche, honnêtement, de ma part, là, je sais pas comment je vais fonctionner pour la suite, mais tu sais, je trouve ça... Je me sens un peu... Le terme qui me vient en tête, c'est « bitch », parce que je me suis entretenue avec Mathieu. Ça a super bien été. Puis après, ben je suis allée fouiller de mon côté, puis j'ai trouvé des choses, tu sais. Fait que je remets en question un peu quelques concepts qu'il a apportés. Mais ce qui est dommage, c'est que lui, il a pas la balle à son tour pour revenir. Mais bon, j'ai comme envie de le réinviter. Là, il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Fait que... Le but, c'est pas de me faire des ennemis non plus, là. Fait qu'idéalement, j'aimerais qu'ils reviennent. Mais voilà, les trois petits concepts sur lesquels je voulais revenir d'entrée de jeu. Vous allez voir, dans le podcast, on parle de RDA. Dans le fond, le RDA, c'est la valeur qui a été émise, là, qui est suggérée par le gouvernement comme étant la valeur cible en certains vitamines et minéraux. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on devrait atteindre comme valeur pour dire que nos besoins sont comblés? Donc, dans le podcast, Mathieu dit que le RDA, en fait, c'est le minimum requis pour pas avoir de maladie. Mais en fait, quand on regarde la définition, le RDA, c'est davantage la cible à atteindre pour le maintien d'une bonne santé humaine. Donc, c'est vraiment ça la définition. Et les besoins de 98% de la population sont comblés avec l'atteinte du RDA. Donc, en dehors de ça, c'est sûr qu'il y a certains facteurs à considérer. Donc, si quelqu'un prendrait une médication quelconque, un très grand sportif, par exemple. Mais sinon, la population générale, donc le RDA convient. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est les fameux oméga-3. Donc, dans le podcast, Mathieu parle de l'oméga-3 index, qui est finalement une valeur qui dit qu'on peut finalement déterminer pour aller voir si notre taux d'oméga-3 il est optimal ou non. Donc, ce qu'il nous propose, en fait, ce qu'il avance, c'est que pour une santé optimale, notre index devrait être entre 8 et 12%. Mais il ne fait pas nécessairement référence à la quantité d'oméga-3 qu'on devrait consommer pour atteindre ce 8 à 12%-là. Fait que j'ai fait mes recherches, puis un fameux index à 8%, finalement, ça prend 250 grammes de poisson par semaine pour l'atteindre. Donc, c'est exactement les recommandations qu'on donne, finalement. Donc, deux portions de poisson par semaine, c'est suffisant. Puis, même effectivement, avec ce taux d'oméga-3-là, ben c'est un taux qui est optimal pour la santé métabolique puis la santé cardiovasculaire. Donc, ça a été calculé là, à partir de 2015. Donc, c'est des données qui ont été mises à jour en 2015. Donc, je ne pense pas que nos apports en oméga-6 aient augmenté depuis 2005. C'est tous des facteurs qui ont été pris en compte. Moi, je serais curieuse, là, puis j'ai cherché, honnêtement, là, j'ai passé des heures et des heures dans la littérature, donc des heures de travail sans rendement monétaire, mais avec beaucoup de rendement en termes de connaissances. Puis j'ai beaucoup de misère à trouver des données à jour sur les ratios oméga-3, oméga-6 qu'on consomme maintenant. Veut pas l'alimentation des gens a beaucoup changé, beaucoup plus de végétariens, beaucoup plus de gens sur des diètes. Oui, il y a encore des gens qui mangent très mal, mais maintenant, il y a aussi des gens qui mangent très bien ou qui suivent des diètes particulières. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs à tenir en compte. Puis, mon bémol étant que c'est pas nécessairement tout le monde qui devrait en prendre. Je pense qu'il y a des recommandations comme ça, ça se doit d'être personnalisé. Donc, puis je suis bien d'accord que c'est pas tout le monde qui mange deux portions de poisson par semaine, effectivement. C'est un supplément que je recommande à une certaine partie de ma clientèle, mais je tenais quand même à lever un petit flag là-dessus. Finalement, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est la fameuse interaction zinc-magnésium. Donc, Mathieu disait que la seule étude qu'il avait trouvée, là, elle datait. Effectivement, j'ai trouvé exactement l'étude dont il parlait qui a été faite en 94. Puis l'étude, ce qu'elle conclut finalement, c'est qu'avec une consommation de 142 mg de zinc, ce qui est effectivement énorme, il y avait une interaction là, majeure avec l'absorption du magnésium. Par contre, ce que ça ne dit pas, c'est que c'est à partir de 142 mg qu'il y a une interaction. Ça ne dit pas que c'est à partir de ça, puis qu'en bas, il n'y a pas d'interaction. Mais j'avoue, j'y donne à Mathieu là, qu'en bas, il y a très, très peu d'informations. Fait qu'effectivement, la fameuse interaction zinc-magnésium, qu'on entend pourtant souvent parler, ça semble très nébuleux au sujet de la littérature. Fait qu'encore là, je laisserai quand même un gros bémol là-dessus, là. Je pense que ça demande un petit peu plus de recherche peut-être là-dessus, mais encore là, même avec la recherche, j'arrive pas à trouver plus d'informations. Fait qu'effectivement, c'est peut-être un concept qu'on peut remettre un petit peu en question. Donc, voici ce que j'avais à dire sur les échanges entre moi et Mathieu. Je vous laisse à l'écoute. J'espère que vous allez trouver ça enrichissant. Puis partagez-moi vos commentaires, là, ça me fait vraiment plaisir. Donc, bon podcast! Avant de vous laisser à l'écoute du podcast, je voulais juste ajouter que j'ai réalisé que le volume de ma voix dans les trois premiers podcasts est assez faible. Donc, j'en suis consciente. Je pense c'est quoi le problème. Là, je me tiens trop loin du micro quand j'enregistre. Donc, c'est un ajustement que je vais faire pour les prochains podcasts. Je vous le promets. Mon chum n'arrête pas de marceler là, pour me dire qu'on m'entend pas. C'est correct. Message entendu. Je vais faire les ajustements. Puis je réalise aussi que je dis vraiment tout le temps « tu sais ». Fait que je vous promets de faire attention à ça. Puis de corriger, de porter attention là, à ce petit tic linguistique. Donc, bonne écoute. Donc, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Mathieu Bouchard. Mathieu est très connu. Je ne sais pas auprès de ma communauté, par contre, s'il est aussi connu. Mathieu, en fait, je vais le laisser se présenter, mais à la base, c'est un naturopathe. Donc, souvent, les nutritionnistes et les naturopathes font rarement team, je dirais. On est comme deux professions dans la nutrition qui pourraient être complémentaires, mais j'ai l'impression qu'on marche plus en solo, chacun de notre bord. Donc, j'étais super contente de m'entretenir avec Mathieu aujourd'hui là, pour qu'on élucide différents sujets par rapport à la nutrition. C'est très connu dans le milieu là, que souvent les naturopathes versus les nutritionnistes, on a un discours qui est différent. Fait que moi, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant dans la vie de s'entretenir avec des gens qui ont des mentalités ou des pensées ou des raisonnements différents que de discuter constamment avec des gens qui pensent comme nous. Donc, je pense que ça va être super intéressant, ce podcast-là aujourd'hui. Donc, Mathieu, écoute, je te laisse la parole. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Voilà.
Ben, moi, je suis naturopathe, comme tu l'as dit tantôt. Je suis le président fondateur de l'Institut AAT, qui est un institut de formation en naturopathie, en fait, depuis 2018. Moi, j'ai fait ma naturopathie depuis 2013. Après ça, je suis allé faire ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Ouais. Parce que, tu sais, ici, au Canada, on s'entend qu'on en a parlé ensemble précédemment. Être naturopathe, c'est à peu près la même... Ça vaut à peu près la même chose que si j'ouvre une boîte de céréales puis je trouve un jouet dedans, là. C'est...
le titre vaut... pas ça. Une chance
c'est
qu'il y a pas
leur problème. Problème. Ah, même s'il écoutait. Mais, donc, on s'entend, tu sais. Il y a des très bonnes écoles de naturopathie. Ouais. Tu sais, exemple, quand moi, avec ma partenaire de compagnie Mélodie, on a voulu créer le programme là, puis être après accrédité. Il faut vraiment leur fournir un syllabus qui a minimum 1200 heures. Ouais. Puis il y a minimum, exemple, 250 heures d'anatomie, 250 heures de physiologie, 100 heures minimum d'herboristerie. Donc, c'est vraiment un programme de 1200 heures. Donc, on dirait un 2 ans à temps partiel d'école. Okay. Donc, c'est à peu près ça. Mm-hmm. T'sais, son calcul, c'est ça fait 2 ans à 10 à 15 heures par semaine d'école.
Y a-t-il un prérequis pour ça? T'sais, nous, c'est universitaire, mettons, on passe par le cégep. Vous, est-ce que ça prend un secondaire 5, mettons?
Pour normalement, ça prend un secondaire 5. En fait, normalement, ça va prendre un secondaire 5. Moi, comme je pense que la plupart des données, puis je pense que même en nutrition, c'est la même chose, est en anglais. Oui. Donc, je dirais aux élèves d'avoir une bonne maîtrise, une bonne compréhension de l'anglais. Pas obligé de le parler, mais pour ce cas de le lire. T'es à un niveau cégep, là.
Moi, quand je suis arrivée à l'université, j'étais pas top en anglais, mais c'est vraiment ma curiosité qui m'a finalement amenée à devenir beaucoup plus à l'aise en anglais. Là. J'aurais pas un discours en anglais dans lequel je serais très à l'aise, mais quand je lis, je comprends tout. Mais c'est d'évoluer en nutrition qui m'a permis ça. Là. Je te dirais que c'était
pas le choix.
Que je l'avais pas à la base.
Tout ce qui existe comme bonne littérature est en anglais.
Absolument.
Ouais. Tu sais, tout ce qui est facile à trouver est en anglais, tout ce qui est complet est en anglais. Tu sais, je dis pas que les Européens sont pas en avance, mais au niveau de l'information qu'on peut trouver en anglais, c'est beaucoup plus simple, il y en a beaucoup plus.
Ben, même plusieurs Européens doivent publier en anglais. Là.
Ben, les journaux scientifiques sont tous en anglais. Ouais. Donc, c'est sûr que ça... C'est très rare que tu vois un article en français sur Nature, là. Fait que t'as pas le choix d'apprendre en anglais, là.
Oui, effectivement. Fait que, puis, tu sais, grosso modo, votre cursus, parce que là, justement, tu viens de dire quelque chose qui a piqué ma curiosité, là. T'as dit herboristerie 200, tu sais, c'est quoi les grandes branches, finalement, de la naturo?
Bien, c'est pas mal les mêmes branches que n'importe quelle discipline relative à la santé. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des bases en biochimie. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, les cursus n'ont pas le choix d'avoir des bases. Donc, nous, on en a un. Si tu regardes les deux autres vraies écoles de naturopathie en ont un, je te dirais que pas mal toutes les autres écoles, je doute de leur cursus en biochimie et en physiologie. Là. Déjà que si on regarde la discussion qui se passe en physiologie, pas juste... disons, au niveau réseaux sociaux. Là. Même des fois, à certains nutritionnistes, que ça fait longtemps qu'ils sont sortis de l'école, la physiologie, OK, ça t'as oublié pas mal comment ça marche, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Ouais,
donc, il faut faire le même. Ben, c'est ça.
Quand tu l'utilises pas, tu le perds.
C'est normal. C'est normal, mais techniquement, dans ton travail, est-ce que tu peux te permettre d'oublier comment fonctionne la physiologie?
Non.
Ben c'est ça. T'sais, tu peux vraiment des détails. On s'entend que le cycle de Krebs, on s'en fout. C'est bien beau sur papier, là, mais apprendre toutes les réactions du cycle de Krebs, c'est relativement inutile.
Et Dieu sait qu'on
l'a fait. Oui, vous l'avez fait. Nous, c'est pas si mal. On n'est pas trop obligé. On l'apprend, mais c'est pas aussi précis que dans les cours de biochimie. Là. On n'a pas de cours de biochimie en soi. Ouais. Souvent, on a des livres. Exemple, nous, on a le Marieb.
Okay.
Que tu connais sûrement. Donc, on a ce livre-là. Nous, on a un autre livre anglais. Je te dirais très intéressant aussi. Donc, deux livres qui se complètent très bien pour aller chercher toute la base de l'information sur macro, micronutriments. Nous, chez Institut AAT, on a monté nos propres documents. Parce qu'en fait, ce qui arrive avec des livres comme ça, souvent, c'est exhaustif un peu. Il y a beaucoup de détails, puis pas beaucoup de compréhension. T'sais, faut, tu lis, t'sais, quand tu lis un livre de Marie-Ève, là,
ouais.
OK, la cellule, OK, good, c'est intéressant, là. Mais tu fais quoi avec ça, puis ça fait quoi? T'sais,
qui le lit, là, tu peux lire un bout, là, mais qui a lu au complet le Marie-Ève? S'il y a quelqu'un, prononcez-vous, s'il vous plaît.
T'sais, le but, c'est d'avoir le livre. Oui, t'sais, comme vous, on a les questionnaires. T'sais, ouais. On va dire, OK, module 1, la cellule, un questionnaire de 20 questions, c'est beau, ça passe, tu passes pas. C'est beau, t'sais, c'est ça en nutrition, c'est ça en naturopathie. Good, t'sais, on n'amènera pas à personne de retenir ça par cœur, c'est normal. Dans ta pratique, faut que tu te souviennes qu'OK, une cellule, c'est ça, puis un atome, c'est ça, OK, good, c'est correct. Mais la naturopathie, ça a pas le même cursus. T'sais, si on regarde un peu qu'est-ce qu'il faut apprendre, puis on avait une discussion entre toi et moi entre la différence entre un naturopathe et un docteur en naturopathie, parce qu'il y a une méchante grosse différence. C'est drôle parce que le programme de naturopathie n'est pas différent entre le docteur et le naturopathe. Donc, tout ce qui est médecine holistique, donc l'herboristerie, donc tout ce qui est comment appliquer de manière holistique le programme, a à peu près le même nombre d'heures. La grosse différence du docteur en naturopathie, c'est qu'il va avoir l'équivalent, par exemple, d'un bac, faut faire un bac pour rentrer à la médecine, si je me souviens bien, là. Ben c'est à peu près ça qu'il faut qu'il fasse avant. T'sais, faut qu'il fasse un équivalent de bac à la médecine, parce qu'il va se taper 1200 heures d'herboristerie puis de tout ce qui a rapport à comment le mettre de manière plus holistique.
Puis justement, avec le terme holistique, là, tu m'ouvres une porte. Écoute, moi, avant de m'ouvrir à votre monde, ma vision de la naturopathie, c'était justement, puis tu sais, je ne dois pas être la seule à avoir cette vision-là, là. C'était comme, tu sais, le parcours universitaire s'est fondé sur la médecine, la science, puis tout. Puis là, c'est comme si c'était la naturopathie, c'était justement, tu sais, de la médecine douce, holistique. Tu sais, c'est un peu, dans ma tête, moi, comme le préjugé que j'avais envers vous, que j'ai réalisé que c'était vraiment un préjugé, finalement, là, c'était que c'était justement pas basé sur la science, ben, c'était plus comme de la médecine, c'est pas traditionnel, justement, holistique, puis...
Ben,
en fait, j'ai réalisé que je me trompe ou c'est parce que s'il y a des gens qui évoluent différemment dans la profession, simplement?
Ben, le gros défaut de la naturopathie, c'est pas enseigné également.
OK, ouais.
OK. Il y a encore dans certaines écoles de naturopathie ou certains courants naturopathiques, beaucoup de vieilles choses. Exemple, une chose que tu as peut-être déjà entendue, la combinaison des aliments. T'sais, ne pas combiner des fruits avec ça parce que ça va... Ça vient de 1950. Un bon naturopathe sait que c'est de la merde, mais en l'école, ils l'apprennent encore.
Mais je te rassure qu'à l'université, on en prend encore plein de choses.
Oh! Je suis certain.
C'est pas qu'ils sont à jour, je te le promets.
Mais je dis ça, c'est parce que le défaut de la naturopathie, c'est qu'il y a encore beaucoup de vieilles croyances qui ont permis à la science, tu sais que... C'est comme le concept manger basique, là, acido-basique, OK. Il y a une vérité là-dedans. T'sais, maintenant, on sait le Prowl, le acidic load, là, qu'on peut évaluer qu'il y a une relation entre ça et la santé, les marqueurs de stress oxydatif. Complètement d'accord. Est-ce qu'une personne mange trop acide? Attends une seconde, là, ton corps a des mécanismes pour faire ce job-là.
L'estomac, c'est fucking acide, là.
Oui, il y a des mécanismes. D'un sens, ça vient au même principe qu'à peu près n'importe quoi qui se passe dans le système du corps humain, c'est à quel point tu as de la tolérance à. Si quelqu'un mange hyper acidifiant, il y a un mode de vie pourri, OK, ça risque de mal aller. Là. Mais c'est pas en disant de manger des brocolis que tu vas le régler.
Mais c'est une combinaison de facteurs, là, comme du gros bon sens, finalement.
C'est pas mal toujours une combinaison. Fait que de mettre l'emphase, oui, sur une saine alimentation, mais on voit qu'une saine alimentation, ça veut dire quoi? Ben normalement, des vrais aliments, 90% de ton alimentation, ça devrait pas mal faire la job. C'est pas mal ça, là.
Puis d'autres choses aussi que j'ai constaté, là, surtout, je te dirais, en débutant dans ma pratique, c'est que les naturopathes, vous êtes très impliqués dans tout ce qui est fitness. T'sais, vous êtes très liés à l'entraînement, au gym, puis tout. À la gestion du poids, est-ce que c'est parce qu'on vous enseigne beaucoup ce volet-là ou mon autre hypothèse, c'était que pour les entraîneurs, mettons, souvent quelqu'un qui va étudier ou bien qui va travailler en entraînement, ben, tu sais, de manière connexe, il se trouve à avoir, dans le fond, un intérêt pour la nutrition, qui est la santé. Puis là, ben, la naturopathie, c'est peut-être plus accessible qu'aller refaire, mettons, un bac en nutrition ou, je sais pas, on voit souvent un entraîneur, mettons, qui va chercher un background en naturo. Tu sais, moi, mettons, là, si quelqu'un me contactait, pour avoir une shape de fitness, pour vrai, je pense que je le recommanderais à un naturo. Moi, je pense même pas que j'ai les skills de faire ça à ce point-là. Fait que pourquoi tu penses qu'il y a autant un lien fort entre naturo, fitness, entraînement?
Bien, il y en a plus. C'est qu'il y a plus de naturo dans le domaine d'entraînement qu'il y a de nutritionnistes.
Oui.
C'est une discussion que j'avais une de tes collègues, qui s'appelle Claudia.
Oui, je la connais, Claudia.
Donc, j'avais une discussion-là avec Claudia, justement, en disant qu'il n'y a pratiquement aucun nutritionniste dans le fitness. Il y a Martin Fréchette, il y a Steven Couture qu'on connaît, puis ça ressemble à ça.
Ouais,
pourquoi? Oui, c'est plus accessible. Oui, ça coûte moins cher. Souvent, c'est plus flexible. Il y a aussi l'aspect que, ben, on fait des reçus. Donc, il y a... ça coûte moins cher aller faire le cours. Ben, c'est moins long faire le cours en naturo que de faire le bac en nutrition.
Oui, exactement, c'est ça, l'accessibilité.
Donc, il y a l'accessibilité qui rentre là-dedans. Mm-hmm. Comme je te disais tantôt, c'est pas tous les programmes de naturopathie qui sont égales. Au Québec, il y a peut-être 2-3 écoles, là, sérieusement, que, tu sais, si je disais la boîte de cornflakes tantôt, là, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal l'équivalent.
C'est slow. Un petit quelque chose, là. Est-ce que vous êtes plus de boys en naturo? Nous, on est beaucoup, beaucoup de femmes. Là. Ça a
non.
Temps à changer, mais non.
Non, si je regardais mon cursus d'élèves actuel, je pense que c'est pas mal égal.
Okay.
Même, je pense que j'ai plus de filles.
Ah ouais, OK.
Ouais. Okay. Les filles, souvent, c'est, on va le dire, vous êtes plus attentionnées aux détails, vous êtes un peu plus travaillantes. Donc, c'est des fois, c'est ça qui fait que... Tu sais, l'naturopathie, c'est super complet et en même temps, tu n'as pas le choix de faire des liens pour comprendre. Parce que quand tu rentres dans ce qu'on appelle l'holistique, ben, la relation, exemple, entre le cortisol et la glycémie, mm-hmm. C'est un naturopathe souvent qui va la faire.
Ouais.
Parce que, mettons, je dis pas que vous l'apprenez moins, mais c'est moins votre manière de faire le cheminement. Le cheminement en nutrition est plus linéaire.
Je vais revenir là-dessus, justement, ça faisait partie de
non.
Ouais.
Fait, des fois, le cheminement n'est pas la même chose. En naturopathie, on est vraiment... On essaie de former beaucoup plus du critical thinking puis de la pensée en arborescence pour faire des points.
Mm-hmm.
Fait que c'est vrai, OK, il y a des points qui sont moins poussés. Je vais donner une autre anecdote que j'ai sur ça.
Mm-hmm.
Fait que ça fait qu'on n'a pas la même manière de peut-être évaluer un problème.
Oui, je suis bien d'accord.
Si moi, je vois un problème, OK, attends une seconde. Ça, c'est ça. Puis souvent, j'avais cette discussion-là avec... c'était drôle parce que pendant que je montais les cours d'Institut AT, je travaillais dans un magasin de suppléments.
Ouais.
Puis une soirée relativement tard, il y a comme trois madames qui rentrent. Puis trois madames, tu sais, qui n'ont pas l'air vraiment en forme, mais que j'apprends par après que sont professeurs pour les programmes d'infirmières.
OK.
Fait que tu fais comme, ah, mon Dieu, ça ressemble à la profession quand même. Mais, puis ils me demandaient, qu'est-ce que tu fais?
Ça veut rien dire, hein?
Le boy, là, qu'est-ce que tu fais à l'ordinateur? T'allais bien concentré. Là, je dis, bon, si tu veux vraiment voir. Fait que là, je retourne mon ordinateur. Puis j'étais en train de monter mon cours qui parle de la résistance à l'insuline. Puis là, j'étais en train de lire des articles sur les incrétines. Là, je dis, monte, ah, ben, je parle de la GLP-1, j'étais en train de monter mon cours sur les incrétines. La madame me regarde, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui parle d'incrétines? Tu sais, ben, j'étais là, moi.
Moi, dans mon. Ils en
parlent
très peu, en fait.
Ouais. Ben, tu sais, ils effleurent le mot, puis ça a l'air de ça, là. Tu sais, fait que.
Ouais,
on avait eu comme un drôle de. Là, j'étais comme. Ouais, ben c'est ça. Là, t'as pogné le naturopathe que ça tente vraiment de faire de quoi de précis puis de scientifique. Là.
fait que là, elle a tripé ses naturopathes maintenant.
Je sais pas, ce madame-là, peut-être qu'elle continue à s'entraîner dans le. Je l'ai jamais revue. Non.
OK, mais cool, très intéressant. Puis, écoute, hey, j'avais quelque chose à dire, je l'ai comme perdu.
La manière de penser.
Oui, la manière de penser. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'on parlait aussi que, tu sais, la différence entre les femmes et les hommes, tu sais.
Ouais.
Si je reviens dans le contexte du fitness, tu vois, les deux nutritionnistes que tu as nommés qui travaillent dans le fitness, c'est des gars.
Ouais.
Je pense que nous aussi, on a un gros côté, puis tu sais, on est très, là, c'est sûr qu'on généralise, là, mais les femmes ont un côté très empathique, très humain, psychologique, tu sais. Puis là, moi, je suis, comme on dirait, « Hey, pauvre petite, elle peut pas manger. » rationnelle, tu sais. Puis là, envoyer les résultats, les données, puis tout. Puis là, moi, je suis comme, hey, « mais là, elle sera pas bien, là. » Fait que tu sais, peut-être cette part-là aussi qui prend un petit peu de place, là. Je sais
pense
pas,
que oui.
Tennis, En tout cas, de sentir le mouvement est très fort, tu sais, anti-diète, puis tout, puis ça aussi,
on peut ouais. Là, mais... Encore là, ça, on pourra en parler longtemps, là.
Oui, absolument. Puis d'ailleurs,
le concept de...
juste avant toi, dans mon podcast, on en jase en masse parce que moi, je suis comme... ben, anti-diète, je comprends, mais tu sais, là, ça va loin jusqu'à health at every size, là, tu sais, la santé à tous les poids, ça, je suis moins d'accord, mais bon. Fait que ça serait un autre sujet. Écoute, fait que là, j'ai trois sujets majeurs là, que je veux qu'on aborde, dans le fond. Le premier, c'est justement les suppléments. Ça, oui. C'est une chose, vous, que vous voyez vraiment beaucoup, que nous, on prône très peu, en fait. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça savoir d'emblée, toi, personnellement, grosso modo, qu'est-ce que tu recommandes à la majorité des gens là, comme supplément? Puis c'est quoi justement que vous voyez un peu dans vos cours par rapport à la supplémentation? T'sais?
Bien, c'est sûr qu'avec déjà un cursus qui parle d'herboristerie, ouais, ce qu'aucun nutritionniste parle parce que c'est pas dans votre pratique du tout,
ouais.
Ça nous amène les plantes. Donc, ouais. Veut pas. Puis je vais t'avouer que même si on l'enseigne, moi je vais expliquer à mes élèves, les plantes, là, c'est pas la madame Arante qui donne une plante. Parce que les plantes, c'est comme un médicament, là. Ça va faire un effet fort. Fait que, regarde nutritionnellement, comment tu pourrais l'aider. Mm-hmm. Tu sais, si, moi, je me fie souvent à, tu sais, je veux dire, je vais me fier à PubMed, je vais sortir les références scientifiques, je vais rentrer, puis c'était en début de pandémie, j'avais beaucoup de le fun avec ça. Tu sais, à lire, exemple, les carences reconnues par Santé Canada des Canadiens. Mm-hmm. Si tu vois, puis ça, c'est des, tu sais, ils marquent une carence au RDA, là.
Mm-hmm.
Il y a une différence entre le RDA et le optimal intake. Là. Ça, c'est. Ouais. Faudrait que les gens comprennent. Là. Le RDA, c'est le minimum de fonctionnement pour la cellule fonctionne si tu fais rien puis tu changes les postes à la télé. Puis tu prends pas de médicaments.
Ouais.
Donc, quand tu as pogné ça, c'est ton minimum. Tu sais, puis je lisais un article l'autre jour, je l'ai posté. Si tu veux ajouter sur Facebook, il y a une madame qui s'appelle Diana Menick.
OK.
Elle a un PhD en nutrition. Aux États-Unis. Puis elle est très, elle roule vraiment plus comme un naturopathe, donc très holistique, mais elle est très scientifique. Elle a des études à son nom sur PubMed. Il y en a peut-être une 15-20 avec son nom dessus. Là. C'est une madame, je te dirais, fin quarantaine, début cinquantaine.
Ouais.
Puis elle a posté un article, justement, il y a quelques semaines, qui montrait à quel point, c'est des références récentes, tu sais, le upper tolerable limit, là. Tu sais, que Santé Canada met avec le RDA, ils mettent une limite tolérable.
Tolérable, c'est ça.
Mm-hmm. Mais je vais t'envoyer un article. Dans l'article, il dit, selon l'évaluation qu'on peut faire de ces données-là, on se rend compte que le upper tolerable limit pourrait facilement être atteint très souvent par une bonne partie de la population selon leur médication, leur mode de vie, sans aucun effet secondaire.
OK, ouais. Mais on s'entend que ces valeurs-là, ça a été, ça fait longtemps que ça date, là, first. Puis,
oui.
Aussi d'aller... Tu sais, c'est sûr que d'avoir des données sur les apports nutritionnels des Canadiens, on s'entend que c'est toute une job. Puis les données qu'on a, souvent, ça date en tabarouette. Là.
Ben, celles-là, les plus récentes sont dans une dizaine d'années, peut-être.
Ben, c'est ça. C'est long, 10 ans.
Quand oui. Mais je pense pas que ça s'est amélioré en 10 ans. Là.
Non, mais quand même, là, tu sais, je veux dire, c'est difficile d'avoir des données à jour par rapport à tout ça. Là. Fait que, effectivement. Fait que oui, vas-y, je te laisse continuer sur les suppléments et tout.
Ben, tu sais, quand on y va au niveau, mettons, de base, on regarde, exemple, ce que le Canadien moyen rentre, disons qu'on lui demande un journal alimentaire, parce que ça, j'ai le droit de faire ça avec tout le monde.
Ouais.
C'est facile d'évaluer qu'est-ce qu'il a l'air à manquer. T'sais, je veux dire, tu rentres ça dans n'importe quelle application, comme tout le monde fait, tu fais comme, OK, il manque pas mal d'oméga-3. Pourquoi? Ben, tu manges jamais zéro poisson. T'sais, la seule source d'oméga-3 que tu as, c'est le sushi une fois par mois. Là.
Mm-hmm.
Fait que tu fais comme, bon, peut-être te suggérer de prendre l'oméga-3.
Ouais.
Ben pourquoi de l'oméga-3? Ben parce que là, ça, c'est pas mal l'un des suppléments qui est le plus étudié et le plus sécuritaire pour 99,9% de la population.
Mm-hmm.
Il y a des doses normales, là, on s'entend. Là. Fait que c'est sûr que...
Je suis d'accord avec ça, l'oméga-3, dans le sens que, tu sais, c'est du cas par cas, là, effectivement, mais, tu sais, moi, j'entends souvent, mettons, puis je sais que c'est pas parce que je l'entends que tu partages nécessairement cet avis-là, mais, tu sais, des comme... Tout le monde devrait prendre de l'oméga-3, du magnésium, du zinc, du chicken. Ben là, pas tout le monde, tu sais. Si
non.
Tu manges du poisson, tu sais, honnêtement, c'est clair que c'est pas tout le monde. Là. C'est clair que c'est pas tout le monde qui mange suffisamment de poisson, mais tu sais, d'emblée, ma première recommandation serait comme augmente ta consommation de poisson.
Ben, je vais peut-être t'apprendre quelque chose sur l'oméga-3.
Vas-y.
Sur l'oméga-3, depuis les années 2000, ils ont commencé à étudier ce qu'on appelle l'oméga-3 index.
OK.
L'oméga-3 index, c'est la quantité d'oméga-3 dans une membrane d'érythrocyte. OK? Okay. Ouais. Alors, ça, ils ont commencé à faire des corrélations entre l'Omega 3 Index et la santé. Parce qu'on sait que la membrane d'une cellule va aussi participer à sa communication, sa capacité de communiquer, sa fluidité. Donc, toute l'information.
C'est très...
Ben, c'est trop. Mais il faut... Il y a des, ce que tu vas manger et le métabolisme de tes acides gras vont influencer ta membrane cellulaire va accepter. Mm-hmm. Ce qui est totalement normal. C'est sûr que c'est pas 100%, donc la relation est pas parfaite. Mais ils se sont rendus compte en étudiant que les gens qui avaient une meilleure santé ou l'Omega 3 Index devraient se situer autour de 8 à 12% pour être dans son optimal.
Donc, plus élevé que les recommandations actuelles. Beaucoup plus.
Oui, non, l'Omega 3 Index,
il n'y a pas de lien avec les recommandations actuelles.
Oui, il y en a une, mais elle n'est pas sur le pourcentage des lipides que tu manges.
OK. Ouais.
Parce que le corps, l'Omega 3 Index, l'Oméga 3 va être utilisé de manière prioritaire dans le système. L'étant un acide gras essentiel, le corps ne va pas utiliser l'Oméga 3 comme fuel. Tu sais, ça se brûle très mal. Donc, ils se sont rendus compte, en fait, c'est que même s'ils prenaient exemple des athlètes professionnels qui souvent mangent mieux puis qui ont plus de budget, ben, il y avait des Omega 3 Index autour de 5-6. Mm-hmm. Puis là, ils leur donnaient des suppléments d'Oméga 3, mais on parlait pas des grosses doses. Là. On parlait de genre 1500 mg de PEDHA. Mm-hmm. Donc, peut-être 2 portions de saumon par jour pendant quelques semaines. Puis, ils se rendaient compte qu'après 4-6 semaines, ben, leur Oméga 3 Index augmentait pour atteindre environ un 7% après quelques semaines. Puis, c'est juste la corrélation, parce que c'est dur de l'étudier une cellule. Hein.
Ouais.
Mais ils se rendaient compte qu'après ça, quand ils regardaient le monde qui était diabétique, le monde qui avait une mauvaise maladie, des maladies cardiovasculaires, ils regardaient leur Oméga 3 Index, puis il était toujours pas très bon. Puis, s'ils l'augmentaient, dans certaines études qui ont été bien faites, puis il y a quand même une coupe du American Heart Association, le AHA, ben, les marqueurs inflammatoires réduisent un peu. Tu sais, il y a des marqueurs qui s'améliorent, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné de l'Oméga 3, ils ont fait monter l'Oméga 3 Index, puis ils regardent. Fait que, mais je te dirais que le plus intéressant dans l'oméga 3, souvent, c'est pas seulement la consommation d'oméga 3, mais le ratio oméga 3, oméga 6 dans une diète.
Oui, tout à fait.
Parce que ça, on n'a pas de preuve que l'humain des cavernes mangeait un ratio mieux, même si on a beaucoup, beaucoup d'extrapolation. Mais si on regarde, exemple, ce qui est disponible dans la nature, exemple, qu'on oublie tout ce qu'on a créé là, depuis les derniers 60 ans, puis on dit qu'on mangerait que ça, ben là, on a un changement dans le ratio oméga 6 oméga 3. Il n'y a peut-être pas beaucoup plus d'oméga 6, mais il y a clairement beaucoup moins d'oméga... pas plus d'oméga 3, mais il y a clairement moins d'oméga 6.
Ouais.
Parce qu'il y en a... Dans les animaux, il y en a. Il y en a plus depuis les 50 dernières années parce que ce qu'on leur donne à manger font qu'ils synthétisent un peu plus d'oméga 6. Mais il n'y a pas aucune huile végétale. Donc, on n'en ajoute pas. Les gens mangent plus de poissons. Si on regarde une alimentation plus méditerranéenne, exemple, qui est peut-être mieux que la diète nord-américaine, on s'entend, là. Il n'y a pas grand-chose de pire que la diète nord-américaine moyenne. Mais, tu sais, si maintenant on regarde celle-là, ou sinon ils ont sorti une diète qui est super intéressante, qui s'appelle The Nordic Diet. C'est la diète, mettons, des peuples comme la Scandinavie. Ils ont regardé leur diète méditerranéenne à eux, puis c'est utilisé dans certaines études. Quand tu vas regarder le Nordic Diet, il y a des produits laitiers dedans, quand même une bonne quantité, mais il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de viande fraîche, il y a un peu de végétaux parce qu'ils ont moins de végétaux, ils ont moins accès, mais ils ont une diète quand même qui est faite de 90% de vraie nourriture. Tu sais, c'est tout un concept que tu te rends compte que le ratio d'oméga 3 d'oméga 6 devient meilleur. T'sais, c'est pas juste d'augmenter toujours l'oméga 3, parce que oui, on recommande de manger 1 à 2 portions de saumon par semaine, environ de, je me souviens pas de la recommandation de Santé Canada, là, mais ça serait ça. Bon, peut-être qu'on va chercher 1 gramme de PEDHA à chaque fois, good, mais si tu manges vraiment moins d'oméga 6, ben, ton ratio risque d'être meilleur. Fait que je pense que c'est ça qui est dans les études qui est difficile, parce que souvent ils testent un paramètre, mais quand tu remets à regarder certaines études qui ont regardé les deux, là, tu te rends compte que la plupart du temps, l'amélioration des deux paramètres, disons un ratio meilleur, là, il va en amélioration.
Mais chaque variable est extrêmement difficile à isoler. En plus,
on dit, là, ça coûte de l'argent.
Oui. C'est pas toujours éthique aussi. Là. Je veux dire, ça reste que c'est une variable, l'alimentation, qui est assez difficile à contrôler. Mais dans le fond, tu sais, ce que j'entends, c'est que selon toi, les recommandations, tu sais, qu'on a actuellement par rapport à plusieurs nutriments, finalement, ils seraient trop basses Fait que toi, tu te bases, tu sais, mettons, ou toi, ou la, en naturopathie, vous vous basez sur des valeurs qui seraient supérieures pour dire qu'à des niveaux supérieurs pour certains nutriments, finalement, il y a des bénéfices. C'est ça?
Bien, en fait, encore plus loin que ça. Donc, les recommandations, tu sais, je dis ça à mes élèves, des fois, j'ai des élèves qui sont très anti-nutritionnistes ou anti-Santé Canada. Là, je vais leur dire, j'ai jamais vu personne devenir diabétique en mangeant le guide alimentaire.
Oui.
Mais en comprenant ce qu'ils voulaient du guide alimentaire, par exemple, ça, sont capables.
Oui.
Mm-hmm. Parce que dans le guide alimentaire, si je me souviens bien, il n'y a pas de Pop-Tarts. Là,
non. C'est drôle parce que, genre, justement, quand que le nouveau guide alimentaire est sorti, il y en a plein qui, là, évidemment, les gens chialaient sur l'ancienne version du guide alimentaire canadien, ce qui est bien correct. La première chose que j'ai à dire à ça, c'est qu'elle datait comme de 2007. Fait que, est-ce que toi, mettons, si tu as écrit quelque chose en 2007, c'est possible qu'aujourd'hui, tu ne le vois plus?
C'est ça.
Totalement. L'autre chose étant, OK, là, vous dites, tu sais, les Québécois, les Canadiens ne sont pas en santé parce qu'ils mangent selon le guide alimentaire. Penses-tu que les gens mangent selon le guide alimentaire? Non.
Il est là le hic.
Non.
C'est parce que tout le monde améliorait sa santé à suivre des recommandations comme le guide.
Mm-hmm.
Ce qui est mal fait un peu, c'est quand on tombe dans l'anti-diète extrême.
Mm-hmm.
Donc, ouais, mais si t'as plaisir, fais-toi plaisir. Attends une seconde, là. Le plaisir dans le cerveau, c'est la dopamine, puis 99% des gens ont le système-là qui fonctionne pas.
Mm-hmm.
Fait qu'arrête de parler de plaisir, puis fais-toi plaisir, là, oui, il est obèse, puis il s'injecte de l'insuline. Fait qu'à un moment donné, là, son plaisir, là, ça fait longtemps qu'il fonctionne plus. Tu sais, ouais, mais ouais, tu regarderas le lien entre la le reward puis les diabétiques, là, c'est assez impressionnant. Il fonctionne pas. Le mécanisme de reward fait qu'il devient dysfonctionnel parce que l'insuline a un impact sur le turnover de la dopamine.
Mm-hmm. Okay.
Fait que c'est vraiment...
ouais.
C'est, en tout cas, c'est le fun d'aller... Quand, là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des recommandations qui font « Wow! » Okay, ça fait, ça, c'est de la neuroscience. Je comprends que personne... T'es pas obligé d'apprendre ça en nutrition.
C'est ça, là. Ouais, c'est ça.
Mais tu sais... Tant qu'à faire des conseils, ouais, ben, venons lire si ça fait du sens, ton conseil, tu sais.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, justement, des fois, je trouve que les recommandations sont peut-être pas assez adaptées, justement, tu sais, juste par rapport au zinc, là, tu sais. Hey, pour vrai, je pense que j'ai passé une semaine sur le zinc, là, à cause que j'étais là, pourquoi, tu sais, je voulais vraiment comprendre, j'étais là, pourquoi ils recommandent des suppléments de zinc. Puis, on s'entend que d'habitude, tu sais, les naturopathes, vous êtes face à la consommation de viande, là.
Oui.
Pour vrai, tu sais, je regardais l'absorption de tout, j'étais comme « no way » là, que quelqu'un qui mange de la viande normalement a besoin de puis là, c'était comme tout le monde a besoin de suppléments de zinc. Puis là, il disait justement, ouais. J'ai vu quelqu'un qui disait, un naturopathe justement, puis là, il a mis justement des valeurs de Santé Canada qui disait qu'il y a comme 30% des gens, des Canadiens qui manquaient de zinc, tu sais, qui avaient des carences en zinc. J'étais comme, OK, les enfants, les personnes âgées, les véganes, ça fait ouais. Déjà comme végétarien 30%. Tu sais, est-ce que tout le monde, le monsieur qui fait du bodybuilding, a besoin de prendre des suppléments de zinc?
Bien, là, après ça, c'est de voir un peu dans le qu'est-ce qui nuit au zinc.
L'absorption, oui, je comprends.
T'sais, pas juste l'absorption. Non, tu regarderas, il y a des médicaments qui forcent l'évacuation. Il y a des hormones qui vont faire excréter des minéraux. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple juste du cortisol. L'exemple facile, parce que tout le monde connaît le cortisol. Tu regarderas le fond de cortisol puis mineral deficiencies.
Mm-hmm.
Il y en a un paquet que quand le cortisol augmente, le corps se met à augmenter son métabolisme de ce chose-là pour compenser, parce que on s'en doute que le corps, les gens comprennent à tort que le cortisol, le corps n'a pas de mécanisme de défense contre, oui, parce que le cortisol dans le système, c'est dommageable aussi.
Mm-hmm.
Fait que le corps s'est créé plein de pathways hormonales pour protéger certains organes du cortisol.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas le choix. Mais ces pathways-là, souvent, requièrent des enzymes qui, eux, requièrent des minéraux puis des vitamines.
Ouais.
Puis quand tu regardes, c'est pour ça que il y a certaines vitamines et minéraux, le magnésium étant le pire, là, je pense, là, parce que ouais. Si tu regardes directement chronic stress, c'est le magnésium need.
Magnésium, honnêtement, même moi, j'en prends.
Magnésium, pour vrai, ça, c'est une affaire que c'est pas mal tout le monde devrait en prendre.
Ouais, ben, surtout chez les gens qui font du sport, puis oui. Chez les chroniques stressées, évidemment.
Ben, les diabétiques aussi. C'est
ceux qui mangent mal.
Les diabétiques bon. Aussi, parce que les diabétiques éliminent plus de magnésium à cause de les transporteurs de glucides dans les intestins qui ont un rapport avec l'excrétion du magnésium au niveau rénal. En tout cas, il y a un gros mécanisme en arrière de ça.
Tu sais, ça, justement, quand je lisais la semaine que j'ai passée sur le zinc, je lisais, puis justement, il disait que quand ils ont établi, finalement, mettons, les valeurs à X, c'est, les valeurs, c'est 8 mg par jour pour une femme, puis...
8 à 11, puis genre 12 à 15, là.
Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est que pour calculer ça, justement, ils ont quand même déterminé les paramètres d'absorption. Fait que, tu sais, ce que tu parles, justement, de vitamines, de, tu sais, des autres composés que tu vas manger, ça a été pris en compte, j'imagine. S'ils ont calculé l'absorption globale, tu sais.
Souvent, ça a été pris en compte de combien l'intestin pouvait absorber d'un nutriment X. Mais encore là, on revient aux mêmes paramètres pour le fonctionnement minimum.
C'est que aussi, si tu vas chercher, comme, tu sais, quand on parle de l'effet d'un sur l'autre, tu sais, mettons, tu vas chercher un supplément de magnésium, mais ça aussi, ça peut nuire à l'absorption justement du magnésium. Du fait que, tu sais, à quel point après, tu sais, tu crées vraiment une balance ou un débalancement, tu sais, c'est ça qui devient dur aussi à juger.
Tu disais un supplément de magnésium pour nuire ou un supplément de zinc pour l'absorption du magnésium?
Oui, c'est ça, exact.
Tu regarderas, il faut 142 mg élémentaires de zinc pour commencer à nuire à l'absorption du magnésium parce qu'ils n'utilisent pas le même transporteur au niveau de l'intestin.
Okay, je regarde.
J'ai eu du fun avec cette référence scientifique-là, l'article d'acte de 98, genre. Puis, hey, c'est beaucoup, là, 142 mg d'élémentaire de zinc. Là. Il y en a juste un, il n'y en a aucun autre.
C'est peut-être pas.
Il n'y en a aucun autre. Non, mais je n'ai jamais trouvé aucun autre.
Ouais,
mais. J'ai beau checker.
Moi, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion avec un article.
Non, mais c'est le seul qui existe que j'ai trouvé sur le sujet. Fait que. Puis, on s'entend, là. Tu sais, j'ai accès à les journaux scientifiques autant que toi. Puis, j'ai. Il n'y a aucune étude qui a regardé zinc et magnésium. Si je t'en donne, qu'est-ce que ça fait? Celui-là, il y avait vraiment un tracer, puis on montait la dose de zinc pour regarder qu'est-ce que ça faisait sur l'excrétion et l'absorption. Puis maintenant, 142 mg, ils ont dit, OK, on commence à avoir un problème. Je crois qu'on va avoir un problème de zinc bien avant, là. 142 d'élémentaire, tu vas être intoxiqué au zinc, là. Mm. C'est... Fait que des fois, l'intestin est bien fait. Si tu doses bien tes vitamines, il va les absorber.
Mm-hmm.
Il fonctionne tout avec des protéines d'absorption.
Je réfléchis pendant qu'on se parle, justement, tu sais, du zinc concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui se dose bien? Tu sais, mettons, je dis à quelqu'un, j'aimerais faire doser ton zinc, ça se fait-tu concrètement? Je sais pas, ça.
Je sais qu'on peut faire doser ce qu'on appelle du red blood cell, donc le RBC zinc, RBC magnésium. Toi, tu pourrais réussir sûrement. Moi, c'est impossible que je réussisse à demander ça à quelqu'un. Mais, tu sais, ça se dose. Mais après ça, Red Blood Cell, est-ce que ça te donne la meilleure image? Ben, c'est meilleur que sérum, là. On s'entend que c'est ceux qui font tester le sérum qui disent, oh, ton sérum est beau. Ouais, est-ce qu'il y a dans le sang, je m'en sac, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas dans une cellule, ça sert pas à grand chose. Ça veut même peut-être dire que ça rentre pas dans la cellule.
Mm-hmm. Ouais.
Avoir un taux de B12 sérique élevé, là, c'est à peu près aussi fiable que de regarder dehors et de dire, ouais, il a l'air à faire chaud. Chris, tu le vois pas. Tu le sais pas. T'sais, ouais.
Comme
c'est
pour
pareil,
le sérum, je disais que ce qu'ils faisaient souvent chez les athlètes olympiques, c'est qu'ils font quasiment des biopsies du muscle pour aller chercher vraiment les taux intramusculaires parce que justement, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Là, fait que ça vient super dur à évaluer aussi pour les gens qui nous écoutent, justement, c'est juste de percevoir à quel point ça peut être difficile. En nutrition, il n'y a pas de vérité infuse. Il y a juste de la nuance. Puis il y a beaucoup aussi de croyances au travers de tout ça. C'est pour ça que des fois, ça vient difficile pour le public. On s'y perd. On a l'impression que tout le monde se contredit. Mais en fait, c'est que la vraie vérité infuse n'existe pas. On discute comme ça. On va d'un bord puis de l'autre. Puis en fait, on peut tirer des conclusions. Mais encore là, il reste... qu'il y a plein de points d'interrogation.
Il y en a toujours, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Tu regarderas sur mon Facebook, ma quote, c'est « There's a right and a wrong in the universe and the difference is not hard to make.
Mm-hmm. »
Ouais. Quand il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies, et là, c'est évident.
Mm-hmm.
En nutrition, on a ces paramètres-là parce qu'il y a des choses qui sont totalement fausses et des choses sont totalement vraies.
Entre les deux, il y a comme beaucoup de nuances.
Ben, la nuance rentre dans la bio-individualisation.
Mm-hmm.
Parce que d'une personne à l'autre, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont spécialisés en ce qu'on appelle la génomique.
Oui.
Donc, analyser les génomes, la SNPs, les SNPs finalement, pour essayer, après ça, décortiquer les besoins.
OK.
Parce que.
Ben,
plus précisément.
Mm-hmm.
Tu sais, puis je vais t'avouer que j'ai vu une couple de leur panneau d'analyse, là. Hey boy, c'est quelque chose.
Ah ouais.
Le monde qui me dirait, c'est pas précis. Non, c'était peurant, là.
Mais tu sais, en dehors de ça aussi, concrètement, en clinique, là, tu sais, c'est que c'est bien beau avoir toute cette précision-là, mais moi, j'ai toujours à mes clients qu'il n'y a aucune recommandation qui est fiable si on n'a pas d'adhérence à la recommandation, tu sais.
C'est pas mal ça.
Fait que... en bout de ligne, tu sais, t'as beau avoir le plus de choses, il faut que tu rendes ça quand même simple pour le client, puis quand même accessible, puis concrètement, ça va ressembler à quoi, tu sais, parce que, tu sais, on a beau aller chercher la plus grande précision au monde, je pense que le plus gros problème, c'est pas que les gens ne savent pas ce qu'ils devraient manger, c'est qu'ils ne le font simplement pas, tu sais, fait que là, il y a tout le côté aussi psycho qui entre en
ouais. Tu sais, puis souvent, moi, ce que j'ai eu beaucoup de difficultés, puis j'en ai encore beaucoup, le seul, tu sais, moi, je suis anti-diète sur le point que, tu sais, dans le domaine du fitness, les coachs sont encore très calories.
Ouais.
Donc, très macro, très calories. OK, good. Je suis plusieurs personnes dans le domaine qui ont des biais en nutrition, beaucoup aux États-Unis, en fait. Puis, ils disent tout le temps, tu sais, il y a un macro qu'on peut calculer. Le seul, c'est la protéine.
Mm-hmm.
Parce que lui, dépend directement de ton facteur d'activité, de ta masse musculaire. Donc, lui, on peut le calculer. On peut lui donner un chiffre.
Mm-hmm.
Tu sais, plus ou une variable. Donc, on va dire, de temps à temps... Ça devrait être ton apport en protéines.
Mm-hmm.
Après ça, les autres, ben, il est là ton fun. T'sais, il est là où ce que tu peux te permettre de faire 3-4 variables dans le plan d'une personne en lui disant, gars, si ce soir-là, ça te tente pas de manger 2 tasses de riz, là, oui, ben, tu pourrais faire un demi-avocat avec des noix, un petit peu d'huile d'olive, mets des gras à la place. Oh, pourquoi? C'est l'apport calorique en bout de la ligne, là, on s'en fout un peu, là.
Mm-hmm.
T'sais, pis, moi, ça me faisait tout le temps rire parce que le trouble alimentaire, Mélodie, qui est la co-directrice des SAT, elle travaille beaucoup dans les troubles alimentaires, elle ouais. connaît beaucoup le concept. Puis qu'on voyait des plans de fitness arriver avec un apport calorique,
mm-hmm.
là, les gens disaient « Ouais, mais j'ai 750 calories. » Je vois, mais t'as jamais mangé 750 calories. Ben oui, je le suivais à la lettre. OK, fait que tu mangeais le même poulet, le même brocoli, le même...
C'est une grosse tomate ou une petite tomate?
Ben là, ben non. Ben d'abord, tu l'as jamais suivi.
Mm-hmm.
Je dis, moi, tu comptes pas dans une journée, savoir combien de calories tu dépenses?
Mm-hmm.
Ben, personne ne fait ça, exactement. Donc, pourquoi tu compterais ça?
C'est une décision pour quelque chose de très imprécis, comme l'alimentation, la dépense énergétique.
C'est ça, de quelque chose qui a une variable acceptable.
Tu sais, ça n'en prend, mais ça reste qu'il y a beaucoup de variabilité. Puis, l'autre chose aussi, là, justement, tantôt, je te disais, là, avant qu'on commence à enregistrer, que j'avais écouté un ancien podcast que tu avais tourné avec Quentin.
Oui.
Quentin, ça se dit-tu de même?
Oui, c'est Quentin.
Le débaptiser, OK. Tu me dis, ah, ça fait un bout, fait que là, je ne sais pas si tu as toujours le même avis sur le sujet sur lequel je t'amène. J'ai l'impression,
vas-y.
Que, par exemple, tu disais, je pense que tu as posé une question comme, c'est quoi, toi, selon toi, tu sais, l'alimentation, pas la parfaite, mais tu sais, c'est quoi pour toi une bonne diète? Puis toi, je pense que tu crois bien gros au paléo. Fait que, qu'est-ce que t'aimes du paléo? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu le penses encore à ce jour? C'est quoi ton avis sur ce type de diète? J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Mais tu sais, le concept du paléo, que moi, je trouve intéressant, c'est que je comprends pas pourquoi cette diète-là, il a fallu qu'il donne un nom, premièrement. Parce qu'en fait, le concept, c'est de manger des aliments qui existent.
Mm-hmm.
Ça ressemble à ça, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi j'aime ça?
Ta question, ils ont donné un nom pour faire du cash.
Ben, ils ont donné un nom parce que c'était trendy, il fallait faire un nom. Tu sais, parce qu'on s'entend que manger des vrais aliments, mettons que 90% de ton alimentation, c'est des aliments qui ont été aucunement transformés. Ou minimalement. Disons, tu sais, du beurre de peanuts, ça rentre des peanuts. On s'entend. Good! Bon, on va dire, ouais, mais c'est une alimentation. Non, c'est pas mal ça que l'humain mange depuis pas mal couple de milliers d'années, là. C'est récent, là, quand ton déjeuner, c'est des cornflakes, là. Tu sais, fait
ouais.
C'est peut-être ce bout-là qui marche moins bien. Tu sais, c'est un peu ça que, c'est pour ça que je trouve le concept est facile. Tu sais, le monde, tu sais, autour de l'épicerie, là, oui, c'est tout ce qui existe dans sa forme naturelle.
Mm-hmm.
À l'intérieur, essaie de pas d'en avoir trop dans ton panier. Tu sais, ouais. c'est ce qui va avoir tendance à créer des problèmes.
Je trouve que le concept de naturalité, par exemple, de non transformé, est un petit peu poussé dans le paléo. Justement, tu sais, pas de grains entiers, pas de légumineuses. Tu sais, moi, je me dis pourquoi.
Ça dépend du paléo, hein.
OK, peut-être.
Ça dépend du paléo. Il y a beaucoup de formes de paléo. Moi, j'adhère à celle qui est. Non transformé, point.
Ouais.
Donc, moi, il y a du gruau, il y a des patates, il y a du riz, il y a du quinoa, il y a des légumineuses.
Mm-hmm.
Tu sais, la seule affaire que je trouve comme année, OK, ben, là, les céréales, OK, c'est dur d'avoir des céréales non transformées. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, ça existe, des flocons de Camus. Donc, ouais. Mais après ça, le pain, il devrait pas faire une partie intégrante de ton alimentation de tous les jours. Tu sais, tu peux l'en mettre. Trouve des bons pains qui ont 4 ingrédients, là, pas ceux qui en ont 72 pour camoufler que ça goûte plus rien. Là.
Mm-hmm.
Puis, ça peut s'inclure.
Sur le marché en 2020. Là.
Oui, mais on s'entend que la majorité du monde mange encore du pain gadois. Là.
Ouais, ça dépend.
Ben, tu sais, c'est très rare.
Pour le pain, ça a été vraiment mieux sizé, le concept de grain entier pour le pain, que quand on l'amène dans tous les autres grains. T'sais, le monde mange des pâtes blanches, du riz.
Oui, pour le pain, ils ont mieux compris le concept.
Un peu plus, là, honnêtement. Ouais. Fait que non, j'aime ta vision par rapport au paléo. Effectivement, un petit peu moins tranché au couteau, un petit peu moins. Effectivement, le moins transformé possible, en fait, c'est ce qu'on veut. Mais encore là, tu sais, je sais pas ton avis, mais tu sais, moi, je prône beaucoup aussi le fait que, tu sais, l'alimentation, ça, puis j'imagine que oui, parce que t'es quelqu'un de très rationnel quand même, là, que, tu sais, l'alimentation, ça a pas besoin d'être parfait, tu sais, fait que moi, j'en ai des céréales chez nous, justement, tu sais, des nature pâtes, puis tout, c'est un peu transformé, mais genre, je me mange pas un gros Christy bol de céréales, mais j'aime ça, tu sais, d'en mettre sur mon yogourt, encore là, je parle de produits laitiers.
J'adore ça.
Yogourt grec nature, mes petites céréales, mes petits fruits, genre, je trippe à manger ça le matin. OK, mes céréales sont transformées, mais genre, sérieux, ça fait crissement la job, là. Puis j'ai aucun malaise à manger mes céréales qui sont un peu transformées, là. Tu sais, l'industrie ne nous veut pas que du tort non plus, là.
Ben, ce qui est intéressant sur ce concept-là, en fait, moi, tu sais, si tu regardes un peu la science, mettons, on retourne au diabète ou maladie métabolique, parce que c'est peut-être la pire affaire qu'on a à dealer, là. Moi, j'ai pas le droit d'y traiter. Ce que je fais, c'est de la magie, donc ça arrive magiquement si je les aide. Toi, t'as le droit. Mais donc, si ce qui est intéressant dans le concept, c'est qu'après ça, sur ces gens-là, comme leur système est déjà dysfonctionnel, donc on s'entend, la maladie métabolique crée un dysfonctionnement du métabolisme. Ouais. Donc, ils peuvent évaluer l'impact de certains repas sur eux. Mm-hmm. Et ça a été fait. Donc, tu sais, en littérature, ils ont testé, exemple, bon, mais disons qu'on donne à ces personnes-là une alimentation normale, donc pas de poutine.
Une alimentation normale, ça, c'est quoi ça, normal?
Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils établissaient comme normal, mais je pense que c'était sans junk food. Ils prennent l'alimentation. Et après ça, exemple, il faisait un test meal qui était un high fat, high sugar. Mais ben, finalement, de la pizza avec un gâteau. Donc, le samedi de tout le monde. Fait que, après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les marqueurs inflammatoires. Mm-hmm. Mais ils se rendaient compte que les diabétiques, eux autres, ça prenait pas 24 heures avant qu'ils reviennent normal. Là. Ça prenait des jours. Mm-hmm. Tu fais comme, OK, dans une seconde. Fait que toi, ta pizza et ta poutine, tu payes encore rendu au jeudi. Okay. Ton système, il est encore dans le trouble au jeudi. Tandis qu'une personne qui va bien, comme mettons moi et toi, ben, le lendemain, ça s'est replacé. Mm-hmm. Encore, mon mentor a une quote excellente pour ça. Puis c'est un gars que j'ai commencé à étudier en 2014. Puis ça, c'est rendu un ami. Puis t'sais, lui, il ne fait pas de diète. Mm-hmm. Lui, avec trois doctorats, tu ne fais plus ça des diètes. Non, non. Lui, il recevait juste des cas de maladies auto-immunes graves.
Okay.
Pis, il dit à un moment donné, il y a un client qui vient me voir et il dit, OK, when do I get a cheat meal? Quand est-ce que je peux manger d'autres choses que tu recommandes? Lui, il recommande une diète paléo modifiée. La différence de son modifié, ça veut dire que lui, il inclut du vin rouge et du chocolat parce que lui, il aime ça boire du vin rouge et il veut pas l'enlever. Fait que, je l'aime, c'est ça. Moi.
Je dis toujours que mes deux faiblesses dans la vie, c'est le vino et le chocolat.
Très correct.
Parfait. Fait
que, Alex dit répondre, ça dépend. Combien en santé tu penses que t'es?
Oh!
Fait que le client, il fait, oh ouais, ça répond à ma question, c'est ouais. Ça. Il dit, quand ta santé va s'améliorer, t'iras manger des Pop-Tarts. Pour le moment...
Je veux dire, on parle de du monde qui sont hypothéqués au niveau de la santé, puis
ouais.
Tu me parles de Pop-Tart, là. Tu sais, pour le commun, pas le commun, mais tu sais, quelqu'un, justement, qui est en santé, qui n'a pas de troubles de santé, pas de diabète, puis tout, tu sais, je veux dire, que tu manges quelques aliments comme du pain ou des céréales de grains entiers qui sont un peu transformés, il n'y a aucun problème, là, tu
le manges. Non, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, là, exemple, je décide d'aller me faire des toasts au beurre de pinot confiture, là, ce que j'adore vraiment. Ça ne devrait pas causer de problème.
Surtout pour quelqu'un qui bouge, là. Tu sais, si tu le brûles, t'as tes glucides à l'effort, là.
Ouais, c'est là qu'on s'entendra pas, c'est sûr.
Ouais, ben vas-y, écoute, je suis là pas pour...
Parce que l'impact sur, exemple, ton immunité de ces genres d'aliments-là est là pareil. C'est plus une question de je le brûle ou pas.
Quand tu dis ces genres d'aliments-là, là, c'est que tu parles comme si justement tu parlais de Pop-Tarts.
Non, ben écoute, parce qu'on s'entend que les gens ne font pas la différence. Là.
Non, ben moi je te parle de glucides de bonne qualité, de grains entiers. Puis
OK,
tout.
Ça, là c'est correct.
Inflammatoire.
Tu sais, mettons des Nature's Path avec des yogourts grecs. OK, on verra pas ça, c'est pas un problème. Mm-hmm. Mais pour le pas du monde, c'est pas ça l'être riche. T'sais, c'est pas ça qu'ils vont se dire, je me suis gâté, là. Ils vont pas manger des céréales bio.
Je te parle justement, c'est correct de manger ça au quotidien, surtout si tu fais du sport. C'est des glucides. Puis tu carbures aux glucides à l'effort. Fait que c'est bien correct.
Oui, mais je pense que ça, c'est un point qu'il faut comme peut-être expliquer mieux aux gens. Que c'est pas parce qu'ils brûlent que c'est une bonne chose d'en manger.
Oui.
Tu sais, parce qu'on s'entend. Si, exemple, il y a une affaire qui existe en science, ça s'appelle la glycemic variability.
Mm-hmm.
Qui ont étudié quand même intéressant pour les maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui avaient une variabilité glycémique quand même assez élevée, donc ils avaient tendance à avoir des incursions de glucose dans leur journée quand même assez impressionnantes dans un moment où ils devraient peut-être pas manger ça.
Ouais.
Parce qu'on s'entend que tu peux être résistant à l'insuline, donc ça c'est une condition, mais tu peux être intolérant au glucose. Ouais. Ça c'est une condition temporaire.
Mm-hmm.
Mais dans ta condition temporaire, si tu es allé manger 3 bols de céréales, même si c'est des santé, tu risques d'avoir un papier spike de glycémie. Là.
Oui. Mais encore là, tu parles de 3 bols de céréales.
Même un.
Ouais.
Tu sais, mange un bol de genre de céréales, puis si tu es intolérant au glucose pendant cette période-là, tu risques d'avoir un beau spike de glycémie qui va dépasser facilement les 8, 9, 10 millimoles.
Mm-hmm.
Tu sais, ce qui peut être, mettons, on va exagérer, là. Sur le long terme, plus dommageable que d'avoir une glycémie qui se tient toujours plus stable, plus dans des ranges acceptables. Fait que c'est un peu le... Parce que oui, tu vas brûler. Fait que là, au niveau de la prise de poids, on est correct. Au niveau de la santé, c'est un autre domaine. Tu sais, c'est ce que tu as parlé tantôt. Je pense que les gens confondent, il est gros, il est mauvaise santé. Et batin que c'est pas ça.
Pas nécessairement.
Ben, en fait... J'avais donné sur une data qui est intéressante, je vais te l'envoyer. Ils ont fait un survey aux États-Unis entre 2009 et 2016. Ils ont regardé le taux de taille, la pression artérielle, les taux de sucre à jeun, l'hémoglobine glycée à jeun. En tout cas, 4 ou 5 marqueurs de santé métabolique. Puis ils se sont rendu compte que si on regardait ces 4 ou 5 marqueurs-là, 88% des Américains n'avaient pas une santé métabolique qui était jugée bonne. 88%.
C'est fou, hein?
Il y a juste 66% de personnes overweight aux États-Unis, là.
Ah ouais, non, c'est clair.
Donc, il y a quelqu'un qui marche clairement pas, là. Fait que, tu sais, il y a un paramètre qu'ils respectent pas.
Ça, c'est pire parce que les gens qui, justement, qui mangent mal, mais qui sont pas en surpoids, c'est comme s' il y avait pas le signal d'alarme, tu sais, fait qu'ils font doublement pas attention, bien souvent, là.
Je pense que c'est les pires.
Mais pour revenir un peu justement aux glucides, tu sais, tantôt tu disais manger des gros bols de céréales puis tout, tu sais, ça risque que ce qu'on recommande souvent, en fait, en nutrition, ben nous, là, les nutritionnistes et vous, les naturopathes, c'est justement, tu sais, d'aller combiner justement, tu sais, de manière culturelle, clairement, les Québécois mangent justement comme des déjeuners qui sont bourrés de carbs, là, genre des toasts de céréales puis tout. Fait que nous, on recommande, tu sais, premièrement, de se tourner vers les grains entiers. Deuxièmement, de combiner avec une protéine. T'sais. Fait que si tu as un grain entier, des fibres, des protéines, tu ne vas pas avoir un spot de glycémie de fou. Là,
ça va être mieux.
Tu as une matrice alimentaire qui est, qui est comme plus adéquate. Fait que ça aussi, ça fait une grosse différence finalement.
Ben, c'est la matrice. Ouais, là, tu l'as dit, mais dans des céréales, la matrice, même si c'est un grain entier, ta matrice est détruite.
Oui, mais ben ça dépend. Pas nécessairement.
Ben beaucoup plus qu'exemple que si tu manges du gruau.
Ben, ça dépend de ton grain de gruau.
C'est ça. Fait que là, tu vois qu'on rentre dans de la nuance que oui, c'est mieux,
ouais.
Mais sur le marché, entre toi et moi, il n'y a pas grand céréales qui ont une matrice alimentaire qui a du sens. Là. C'est mieux que des Cheerios.
Mais tu la manges justement dans un complexe avec des fruits.
C'est ça. Mais il faut que le discours soit even, tu comprends?
Ouais.
C'est ce qui est mal véhiculé. T'sais, on s'entend que il n'y a pas si longtemps, le beurre de peanut est encore considéré comme une source de protéines.
Oui.
Sacrement. Je ne sais pas si...
Beaucoup de personnes le croient, mais en même temps, je veux dire, ça vient d'où ça, en fait, le beurre de peanut protéine? C'est-tu l'ancienne version du guide alimentaire canadien?
Ben, les légumineuses, c'était dans la protéines et substituts, je pense.
Qui sait que les arachides, c'est des légumineuses? Je pense pas que la population a fait ce lien-là à cause de ça. Là.
Ben, je vais t'avouer qu'on entendait quand même une nutritionniste connue parler de la teneur en protéines du beurre de peanut.
Oui, mais c'est pour ça que je me demande justement, ça vient d'où, si ça vient du guide.
Ben, je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient juste du fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui s'est mis à en parler. Puis, ouais. Moi, combien de clients j'ai eu ça, là? Mais j'ai mis protéines parce que je mets du beurre de peanut sur mes toasts.
vraiment. Fait que pour ceux qui nous écoutent et qui se disent hein, ma protéine, tu sais, parce que je suis convaincue qu'il y a au moins une personne qui va l'écouter qui va faire hein, c'est pas de la protéine. Non, c'est de la matière grasse. Principalement, ouais. Il y a un petit peu de protéines, mais clairement, pas suffisamment, mettons, pour dire que t'es deux tosses au beurre d'arachide, c'est un déjeuner qui est protéiné.
Non, pas vraiment. T'sais, même si tu vas chercher du pain qui n'a pas la protéine dedans, là, à un moment donné, le concept de tranche de pain qui a beurre d'arachide, tu feras pas de mus avec ça. Là.
Bon, OK. Fait qu'écoute, mon dernier sujet, justement, je voulais t'amener, puis écoute, en toute humilité, justement, je reviens sur le sujet que tu as abordé tantôt assez rapidement. Tu mettais un peu des gants blancs pour en parler, mais tu avais totalement raison, là, je te le donne, que les naturopathes, un des points forts que je trouve que vous avez, que moi, ça m'impressionne souvent, c'est la manière à laquelle vous poussez votre compréhension puis votre étude au niveau des hormones. Fait que effectivement, nous, on le voit beaucoup moins. Là. Fait que, tu sais, des fois, je vous écoute parler de ça, puis même moi qui ai une formation, justement, tu sais, en nutrition puis tout, je suis le crème, sont calés là-dedans. Puis, pour en revenir avec mon autre podcast, quand je t'écoutais sur Quantum, tu as parlé, justement, de l'axe hypothalamo, hypophysaire, puis tu me disais que c'était super important, puis là, tu sais, je sais l'implication du cortisol, justement, que si on a le cortisol super élevé, tu sais, c'est difficile d'aller faire bouger plusieurs paramètres, puis ça a vraiment un gros impact, tu sais. En 5 minutes, là, mettons que tu pourrais nous dire ce qu'il y a de plus pertinent et intéressant à dire à ce sujet-là, qu'aimerais-tu nous dire?
Ben, l'axe HPA, donc on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, ou adrenals en anglais, c'est mon premier sujet d'étude en naturopathie, ce que j'ai le plus aimer, étudier et enseigner, et je donne le cours en fin de semaine à mes élèves, donc c'est très... Exact. Ce que j'aime sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal. Il faut savoir que le cortisol n'est pas l'hormone du stress, le cortisol, c'est l'hormone de l'adaptation. Okay. Donc, le corps va faire du cortisol pour s'adapter à une situation. Mm-hmm. Donc, l'adaptation est une réaction normale du corps humain, sinon, ben, tu mourrais.
Mais souvent, l'adaptation, ça peut être stressant pour l'humain. C'est pour ça qu'on fait la confusion, peut-être?
C'est de voir, en fait, la définition de qu'est-ce qu'un stresseur.
Ouais,
okay. Un stresseur, c'est tout ce qui force le corps à sortir de ses paramètres d'homéostasie normale.
Ouais, mm-hmm.
Donc, toute situation. Good! Mais le problème, c'est que tu n'es pas supposé toujours être en dehors de tes paramètres d'homéostasie normale. Mm-hmm. Ce qui est le défaut. Et cette résilience-là vient par le mode de vie et l'alimentation. Donc, une personne qui mange très mal, qui a tendance à avoir des fluctuations glycémiques incroyables, des carences nutritionnelles qui n'ont aucun bon sens, puis on s'entend que c'est une bonne majorité des populations qui vont consulter. Ils mangent pas d'un groupe alimentaire complètement, ils mangent, tu sais, aucune protéine ou tellement peu de protéines que leur corps doit avoir un signal de stress parce qu'ils peuvent rien récupérer finalement.
Ouais.
Donc, c'est plus une accumulation le problème. Donc, le concept de la résilience est peut-être le plus intéressant à ça. Okay. Tu sais, il y a des gens qui sont génétiquement plus doués pour tolérer du stress.
Ouais.
Mais encore là, on rentre dans un paramètre. Ce qu'il faut comprendre avec le stress, c'est que c'est pas le but de toutes les éliminer. Le but, c'est de gérer les pires,
mm-hmm.
et après ça, ben, mettre le système le plus adéquat pour les tolérer, ces stress-là.
Oui, parce qu'en fait, un stress, à quelque part, ça peut être bénéfique,
dans ouais.
le sens que, justement, un stress sur le muscle va l'amener à se développer, même un stress dans la vie de tous les jours, tu sais, dans le sens où tu dis qu'il ne faut pas les éliminer, mais tu sais, souvent, quand tu es stressé, tu es en dehors de ta zone de confort, donc, tu sais, justement, ça crée l'adaptation, ça crée une certaine amélioration, fait qu'effectivement, mm-hmm. D'apprendre à les gérer beaucoup mieux que de les éliminer, je te laisse continuer.
Mm-hmm. C'est beaucoup ça, en fait. Tu regarderas, en fait, le concept de l'hormèse, donc, okay. en anglais, hormesis. Hormesis, c'est justement un stress... What doesn't kill you makes you stronger. C'est ça le concept de l'hormésis.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, l'hormèse métabolique, c'est super intéressant. Puis, c'est pour ça qu'on veut pas éliminer tous les stress. C'est un peu comme les parents qui couvrent leur enfant. Là. Tout d'un coup, il faut qu'ils aillent sortir dehors. Et crime, les enfants deviennent des traumatismes. Pourquoi? Ils n'ont jamais eu tellement aucun stress que tout leur fait un trauma.
Mm-hmm.
Pareil pour le système immunitaire, pareil pour le cortisol.
Mm-hmm.
Quand le corps a été traité en moumoune dans duvet, là, mm-hmm. ben, aussitôt qu'il est confronté aux vraies affaires, ben, ça se peut que ça aille mal. Parce qu'il ne sait pas quoi faire.
Tu sais,
ça revient un peu à une hypothèse en naturopathie qui était quand même très véhiculée, l'hypothèse de l'hyper-hygiène. Donc, les enfants, ils jouent plus dehors, ils mangent plus de terre, ils sont vaccinés à côté, ils prennent les antibiotiques, puis à un moment que le nez leur coule.
Mm-hmm.
Fait qu'après ça, dès qu'ils prennent une vraie condition ou un vrai challenge, ils sont malades.
Ils sont pas capables de se défendre.
Ou ils se défendent trop.
Mm-hmm.
Dans le concept de l'auto-immunité.
Puis, tu sais, dans le fond, justement, tu sais, sachant qu'on vit justement dans une population qui est extrêmement stressée, là, tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses justement de l'effet du stress, la réponse justement par rapport, là, tu sais, je sais que tu me disais le cortisol, c'est pas le stress, c'est plus l'adaptation, mais quelqu'un justement qui est très stressé, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients, mettons, qui sont très stressés, qui réussissent pas nécessairement à améliorer leurs conditions par rapport à la gestion du stress, mais qui réussissent quand même à avoir une amélioration au niveau des paramètres de santé, de poids pis tout, ou tu sais, faut vraiment commencer par gérer le stress pis le...
Ben, tu sais, la première affaire que les gens ont tendance à oublier, c'est dormir.
Ouais, je sais, mais quand t'es stressé, dormir, c'est ça devient un challenge aussi. Là.
C'est là que le fun des naturopathes pis des plantes devient vraiment utile. Parce qu'il y a des plantes qui sont des très forts sédatifs ou des très forts calmants sans effet secondaire, tu sais, comparé à la plupart des calmants prescrits. Là. Ouais. Fait que c'est là que la recommandation de trucs, ils vont dire oui, mais c'est pas mieux, ben c'est pas mal moins dommageant, par exemple, de la camomille qu'un Xanax. Tu sais, c'est...
Mais entre toi et moi, là, tu sais, moi, le sommeil, c'est mort. C'est ma bête noire, là. Puis c'est pas parce que je veux pas dormir, c'est vraiment justement, tu sais, je suis comme le cerveau hyperactif, là. Des fois, je pense pas, fait que j'ai de la misère à dormir, puis j'ai essayé toutes les plantes pas possibles. Fait que si t'as une prescription de naturopathe, je la prends, là. Parce que valériane, mélatonine, camomille, écoute, moi, donne-moi quelque chose de fort, parce que ça marche pas.
La mélatonine, ça fait pas dormir. C'est une hormone qu'on sécrète quand il fait noir, donc c'est quand même c'est plus quand complexe. C'est
recommandé pour le sommeil, pour justement induire. C'est pas un somnifère, mais ça fait
induire. Ouais, mais tu regarderais les études pour induire un sommeil, moi, te dire, c'est pas tellement efficace. Là.
Ouais, non,
je... c'est, disons que c'est pour ça que c'est la pharmacie, puis tu peux en trouver chez Jean Coutu. Là, mais il n'y a pas grand naturopathe qui vont donner ça, à part pour réguler un cycle circadien, parce que c'est à peu près ça que ça sert. Le sommeil, c'est certain que c'est pas juste de fermer un switch et de trouver qu'est-ce qui pourrait empêcher le sommeil. T'sais, l'inflammation peut nuire au processus de créer de la sérotonine puis du GABA.
Okay.
Donc, parce que l'inflammation peut faire augmenter, disons, ce qu'on appelle le glutamate dans le cerveau. Mm-hmm. Le glutamate et le GABA, ben, c'est comme deux opposés dans le cerveau. Là. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ce qu'on appelle la neuro-inflammation ou l'inflammation du cerveau. Certains que dormir, ça sera peut-être pas ton point fort. Là. C'est là que on rentre dans du plus du ce qu'on appelle du thérapeutique, comme d'oméga 3 à plus grosse dose. Oui, mais l'oméga 3 à grosse dose, si tu vois, il y a des études pour exemple. Les seules études qu'on a pour le cerveau et l'oméga 3, c'est les traumatismes crâniens. Donc, parce que ça, ils l'étudient. Mais ils prennent pas des doses de momoun, ils prennent pas deux capsules. Là. Et souvent, c'est l'équivalent de 5-6 capsules.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une affaire aussi.
Ben non.
Souvent, dans la littérature, ils prennent des méga doses.
Ben oui.
Genre un rongeur. Puis après, il y a des gens qui vont tirer la conclusion que tel composé en supplément, ça fonctionne pour telle problématique.
Oui, mais il y a aussi des études sur les humains.
Non, je sais, je te parle pas de... Je disais en général.
Oui, il faut être capable d'extrapoler la dose de rat déjà, premièrement. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de calculer la dose équivalente rat humain. Là. Parce que 40 mg par kilo, c'est assez de faire ça chez un humain, tu vas te rendre compte que tu vas en prendre longtemps.
C'est vraiment, vraiment beaucoup. Là, ouais,
ben, c'est ça. Mais tandis que finalement, ça équivaut à 6. Fait que bon, c'est pas mal plus raisonnable. Mais c'est un peu ça. Là. C'est que, oui, souvent, on n'aura pas le choix de se fier à une étude, exemple, qui est excessive pour faire le pont entre, OK, c'est quoi la dose de maintien? 1 gramme. OK, c'est quoi la dose de traumatisme crânien? 5. Je peux-tu en donner 2 à mon client? Puis il n'y aura pas de danger. Peut-être l'oméga 3, c'est assez safe. Là. Tu pourrais boire la bouteille à part avoir la diarrhée, il n'y aura pas grand-chose. Tu sais, fait...
ça va goûter le poisson aussi.
Et c'est encore drôle. Il y a des compagnies maintenant, moi, t'avouer, là, moi je travaille pour XPN, XPN World, qui est une compagnie. Le nouveau oméga 3, là, ça goûte le sirop.
OK.
Aucun goût de poisson. Là. Genre, c'est des enfants, ils en boiraient. Là. Genre, c'est parfait. Je sais pas comment ils ont fait pour faire ça, mais ça goûte vraiment le sirop. Ben, ils ont mis du stevia.
Ah, voilà. Un autre affaire. bon. Fait que, écoute, merci beaucoup.
C'est
super intéressant. Fait que, toi, par curiosité, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Ça fait plusieurs années quand même.
Depuis 2009, en fait, en 2009, j'étais coach de prep en fitness parce que je faisais du bodybuilding avant.
Okay.
En 2011, j'ai commencé mes études en naturopathie. Puis en 2013, ben, j'ai reçu mes papiers de naturopathe.
Ouais.
Et j'ai fait mon premier cours de médecine fonctionnelle en 2014.
Mm-hmm.
Et puis depuis ce temps-là, ben, j'arrête juste pas.
Oui, c'est ça.
Donc,
moi, quand j'ai décidé que je voulais recevoir un naturopathe, tu sais, je savais que tu existais, je savais que tu étais qui. Puis je voulais pas t'inviter toi, parce que je me suis dit, t'es comme le meilleur, là, tu sais. Fait que j'avais peur, mais finalement, je me suis lancée, puis écoute, c'était très enrichissant.
Merci beaucoup.
Je suis bien contente d'avoir discuté avec toi. Écoute, puis il y a plein de sujets justement qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Fait que si jamais tu es encore libre, on pourra se reprendre pour un épisode 2 ultérieurement.
Non, ben sinon, oui.
Ben, je te laisse accueillir à tes occupations. Puis je te tiens
on demandera à tes auditeurs, il y a un coup qui veulent qu'on parle d'un sujet spécifique, on fera ça.
Absolument, tout à fait. Fait que on vous laisse la parole si jamais il y a quelque chose qui a piqué votre curiosité, que Mathieu a dit ou qu'on a pu dire là, que vous voulez en savoir davantage ou autre chose. Donc, on est très ouverts. Fait que je te souhaite une belle journée, Mathieu, puis on se parle.
Merci, toi aussi. Bye-bye. Bye.
Merci énormément du temps que tu as passé avec moi. Je suis consciente qu'en 2020, le temps, c'est une ressource qui est limitée et tellement précieuse. Donc, si j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pendant quelques minutes, c'est tout un privilège pour moi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se dit au prochain podcast.